Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui l'Union rationaliste, une émission programmée par Emmanuel Huysmans-Perrin et présentée par Guy Bruy. Nous recevons aujourd'hui Jean Boulègue, professeur émérite d'histoire à Paris-1-Sorbonne, historien de l'Afrique noire et qui a passé de longues années au Sénégal. Mais ce n'est pas de cela qu'il va nous entretenir aujourd'hui. Il vient de publier aux éditions Nova un livre intitulé « Le blasphème en procès, 1984-2009 » et sous-titré « L'Église et la mosquée contre les libertés ». Si, Jean Boulègue, je vous définis comme un rationaliste libertaire, est-ce que ça vous convient ?
Cela me convient tout à fait. En tant que rationaliste, disons, je n'admets pas que des normes issues d'une quelconque transcendance viennent se mettre en travers de la recherche scientifique, je rejoins par là certains communiqués de l'Union rationaliste, ni en travers de la liberté des personnes. Alors, en tant que libertaire, je dirais, contrairement à ce que voudrait nous faire dire un fâcheux débat récent, que nous avons tous des appartenances multiples, y compris moi. Mais je dirais qu'en ce qui me concerne, mon appartenance majeure, c'est d'être démocrate et laïque. Concernant la laïcité, il y a deux versants, non pas antagonistes, mais assez divergents quand même. Il y a un versant jacobin qui veut promouvoir l'unité, parfois l'uniformité du corps social, qui a tendance à une sublimation de l'État, le nationalisme n'est quelquefois pas loin. La religion est souvent écartée à cause du fait qu'elle ferait diversion, qu'elle ferait ombre à l'État. C'est ce qu'on appelle l'intégrisme républicain, selon l'expression de Jean Bébureau. Moi, je me situe plutôt de l'autre côté, l'autre versant, le versant libertaire. La laïcité, pour moi, est surtout destinée à promouvoir la liberté individuelle vis-à-vis des normes religieuses. J'ajoute que cette conception de la loi n'a pas à dire le bien, mais simplement le juste. Ainsi, dans le blasphème, il n'est pas question que la loi, ni moi-même, en ce sens, j'adhère à la loi, telle qu'elle a été conçue par la jurisprudence récente. Il n'est pas question donc que la loi dise que le blasphème est bien ou qu'il est mal, juste ou injuste, mais simplement qu'on a la liberté ou non de blasphémer, c'est tout. On pourrait appliquer la même chose à des problèmes comme celui de l'homosexualité ou autre.
Justement, le premier mot de votre titre, blasphème, appelle nécessairement, pour bien commencer, une petite clarification. C'est-à-dire, en deux mots, qu'entend-on couramment par blasphème ?
Bon, en gros, les dictionnaires, actuellement du moins, convergent pour dire que le blasphème, c'est l'injure ou la dérision envers Dieu ou envers la religion, les dogmes, les rites. Ici, on touche, quand on passe aux rites ou aux objets, on touche à la notion voisine de sacrilège. Alors, sous l'Ancien Régime, cela pouvait aller de la négation de l'existence de Dieu jusqu'à l'irrespect envers certaines manifestations cultuelles, comme ce fut le cas tristement célèbre du Chevalier de la Barre en 1766. Les jurons, à un moment, ont pu passer pour des blasphèmes, puis c'est un peu tombé en désuétude. Avec la Révolution française, le blasphème sort du champ du droit français. Le délit n'existe plus. Et effectivement, durant tout le XIXe siècle et jusqu'à la fin du XXe siècle, le blasphème n'a pas pu être poursuivi. En est témoin l'extraordinaire liberté de la caricature antireligieuse sous la Troisième République. Il y a eu des procès pour bonnes mœurs, mais c'est qui pouvait parfois toucher au blasphème, mais c'était quand même assez marginal. Alors le problème est revenu en selle, en quelque sorte, grâce à ou à cause d'une loi de 1972, la loi Pleven, qui a retouché la célèbre loi sur la presse de 1881, qui ne touchait absolument pas le domaine religieux. Mais, en 1972, on a apporté des modifications qui sont connues sous le nom de loi de 1881 modifiée. En fait, c'est depuis 1972. Et là, en 1972, on a aggravé les répressions, les pénalités de la consécutive aux insultes, qui ont toujours été punies, mais évidemment avec une certaine marge de tolérance selon les juges. Les insultes, donc, ont toujours été punies par la loi de 81, mais en 72, on a ajouté une aggravation si les insultes étaient proférées à raison de la race, de l'origine nationale ou de la religion. Alors, à partir de là, la stratégie des milieux religieux, intégristes et conservateurs, musulmans et catholiques, a été de transformer l'insulte envers une religion en tant que système de pensée à une insulte envers un groupe ou une personne ou un groupe de personnes. Et ça a été, c'est une stratégie qui a été initiée. Bon, alors, évidemment, il y a eu le temps de la mettre au point, une douzaine d'années plus tard, c'est un délai, je pense, parfaitement compréhensible, par Mgr Lefebvre lui-même, à la tête de la Fraternité Saint-Pédis. Puis le relais a été pris par une autre association plus politique, plus politisée, la Griffe, proche du Front National. Et il y a, à ce moment-là, donc, c'est la Griffe qui a pris en charge ces procès. Puis l'Épiscopat a pris le relais de la Griffe et les associations musulmanes, intégristes ou simplement conservatrices, sur la même ligne que l'Épiscopat catholique, sont venues également en renfort. Et au total, ça nous a donné, sur 25 ans, donc 1984-2009, 20 procès. Voilà. 18 sur initiative catholique, 2 sur initiative musulmane.
Oui, AGRIF, je crois que c'est un sigle qui mérite d'être développé.
Alors, je crois c'est l'association, je l'ai su, je l'ai oublié, c'est pour la protection de l'identité française.
Oui, contre le racisme et pour l'identité française.
C'est ça. Voilà. Et alors, donc, on a fait passer des textes ou des dessins qui tournaient en dérision le pape, la religion, Jésus éventuellement, pour des textes ou des dessins racistes anti-catholiques. Parce qu'il y a eu il y a des procès pour racisme, entre guillemets, anti-français. Cela, je m'en suis pas occupé. Et d'autres procès pour racisme anti-catholique. La notion de racisme anti-catholique a fait son apparition à ce moment-là.
Vous avez en partie répondu à ce que j'allais vous demander, c'est-à-dire cette sorte de périodisation 84-2009. On s'est dit, tiens, pourquoi 84-2009? Mais dans votre esprit, c'est un peu une étape d'une certaine évolution, d'une certaine histoire, d'un certain combat réactionnaire, disons. Ce sur quoi je voudrais revenir et avoir quelques précisions, c'est cette loi de 1881 que vous avez commencé à analyser et qui ne va peut-être pas sans poser quelques difficultés d'interprétation parfois. Voilà à quoi je pense. Elle distingue entre l'injure faite à des croyances et l'injure faite à des croyants, c'est-à-dire à des personnes. Est-ce que c'est toujours simple à distinguer ?
Oui, plus exactement, ce n'est pas la loi de 1881 qui fait la distinction. Ça a été la jurisprudence consécutive au procès intenté par les organisations religieuses dont je viens de parler. Il a fallu pour les tribunaux concilier d'une part le principe de 1791, c'est-à-dire la dépénalisation radicale du blasphème, hein, des délits pour cause d'opinion religieuse en général, et la loi Plévenne de 1972 qui punit les injures contre des personnes pour des motifs religieux, contre des personnes. Alors, donc, les plaignants ont essayé de considérer que les injures à la religion étaient aussi des injures contre les personnes, ce qui revenait quasiment, sans le dire, sans oser le dire, à rétablir le délit de blasphème annulé en 1791, et les tribunaux ont eu à faire la distinction. Et ils l'ont faite, ils ont différencié les injures, les formes de dérision envers les religions en tant qu'idéologie et celles envers les personnes en tant que personnes. Et une lecture très stricte du texte de 1872 qui parle de pénaliser... 1972, bien sûr. 1880 modifié en 1972. Mentionne bien qu'il s'agit de personnes. C'est parce que ça commence, l'article 33 commence exactement par définir l'injure à la personne, quel que soit le motif, pour ensuite parler de pénalités supplémentaires si le motif est son appartenance religieuse. Mais c'est toujours la personne. Voilà. Alors les juges ont fait la distinction. Ils auraient pu ne pas la faire, mais ils l'ont faite.
Dans cette série de procès que vous étudiez, est-ce qu'il y en a un qui vous apparaît comme un procès emblématique, disons ?
Alors, le procès qui, pour moi, me paraît emblématique, c'est le procès Welbeck. Parce que, d'abord, le procès Welberg n'a pas été contaminé par une interférence. Cette interférence, c'est le critère de publicité. Dans beaucoup de cas, les tribunaux ne se sont pas prononcés sur le fond, mais ils se sont prononcés sur le fait que certaines expressions, qu'elles soient orales ou écrites ou imagées, s'imposaient au public, qu'il le veuille ou non. La différence entre une affiche à grand développement et les pages intérieures d'une revue, c'est évidemment c'est une très grande différence. C'est le critère on appelle ça le critère de publicité. Alors, dans ce cas-là, on peut envisager, en général d'ailleurs, les tribunaux ont rejeté ce critère, mais ils ont envisagé qu'il soit possible. Et en ce cas-là, la punition pourrait avoir lieu parce que attentatoire, parce que l'expression blasphématoire serait attentatoire à la liberté des gens qui n'auraient pas la possibilité matérielle de s'y soustraire. Mais non pas en tant que contenu, non pas en tant qu'injure, non, en tant que simplement privatrice de liberté. Donc ça n'a pas joué dans le procès Welbeck, qui était les phrases de Michel Welbeck, « L'islam est la religion la plus con », entre guillemets, se trouvant dans les pages intérieures d'une revue, qui d'ailleurs n'est pas une revue de diffusion monumentale. Bien. Ensuite, deuxième raison qui font de ce procès, qui date de 2002, un procès exemplaire, c'est le jugement du président Bonal, qui a exprimé de la manière la plus nette la différence. Et je lis « L'appréciation ainsi portée concerne donc uniquement une religion considérée comme système de pensée. Dans ces conditions, écrire que ne revient nullement à affirmer ni à sous-entendre que tous les musulmans pourraient être ainsi qualifiés. » Donc le président Bonal a fait nettement la distinction entre la religion et cet emploi de l'expression « système de pensée » marque bien la différence qui s'établit entre ceci et les personnes. Voilà. Alors autre chose aussi qui fait de ce procès un procès clé, c'est que c'est à partir de ce procès qu'il y a eu convergence entre les conservatismes, je dirais les confessionnalismes musulmans et catholiques, venant de représentants tout à fait modérés de sa part, entre guillemets, de ces confessions, l'épiscopat d'un côté, pour les catholiques, les grandes associations musulmanes de l'autre. La convergence a été parfaite et par la suite, les représentants des deux confessions se sont mutuellement confortés et aidés dans les procès qui ont eu lieu ensuite. Et puis, il y a eu aussi à ce moment-là une convergence entre les intégristes et les modérés. Et la grande différence, au fond, ne passe pas entre intégristes et modérés, mais entre modérés et laïcs.
Une presque dernière question que je voulais aborder, c'est le rôle de l'Europe, disons, dans cette question, car nous sommes très fiers, et à juste titre, de notre laïcité telle que nous l'avons construite, définie, et nous voyons souvent l'Europe comme une menace, et notamment comme une menace à la liberté d'expression. Alors, est-ce que dans les cas que vous avez étudiés, c'est forcément toujours ça ?
Bon, alors ça dépend. Évidemment, l'Europe n'est que faiblement réalisée, comme on s'en aperçoit dans d'autres domaines actuellement. L'Assemblée européenne a toujours eu une opinion en flèche, c'est l'en dire, et a demandé, notamment dans une résolution qui date d'il y a quelques années, je crois 2005, que l'on dépénalise le blasphème dans les États où il est encore pénalisé. Cependant, cela dit, elle n'a pas force de loi sur les législations nationales. On a vu récemment l'Irlande, au contraire, réactiver une notion de blasphème qui datait de 1937. Donc l'Europe est plutôt, elle, anti-pénalité. Des États continuent de pénaliser le blasphème. Certains gardent dans leur constitution des dispositions anti-blasphème, mais qui ne sont tombées complètement en désuétude. D'autres, comme l'Irlande, les réactivent. Donc, il y a une très grande diversité. Disons que le blasphème n'est pas seul en question. Il y a toutes sortes de cas où des normes religieuses tendent à s'imposer à la liberté individuelle et où, au contraire, des aspirations citoyennes se font jour pour obtenir plus de liberté pour l'individu. Alors, il n'y a pas seulement le blasphème, il y a le mariage homosexuel, il y a l'homoparentalité. Moi, je considérerais qu'actuellement, du point de vue de la laïcité, le front se situe sur les questions de la fin de vie et de l'homosexualité. Et là, je pense que la France est en retard sur beaucoup de ses voisins.
Avant de vous remercier, je voudrais juste soulever un problème qui serait un vaste débat philosophique. Vous citez en exergue à votre livre une phrase de Raoul Vaneghem qui dit « Rien n'est sacré, tout peut se dire ». Alors voilà là, ce qu'il faut se demander. Vous avez 20 secondes pour répondre. C'est, est-ce qu'il y a des limites à la liberté d'expression?
Bon, il y a des limites qui sont en dehors du domaine religieux, comme par exemple le viol de la vie privée. Alors, dans le domaine religieux, il y a cette limite qui était le cœur du problème, c'est-à-dire la distinction entre les personnes et les idées, qui n'est pas toujours facile à faire. Il faut le reconnaître. Il y a, comme toujours, des cas limites, des cas intermédiaires. Mais enfin, en gros, c'est la seule limite. Et puis, la limite externe dont je parlais, qui est le critère de publicité. C'est-à-dire l'exagération, le matraquage publicitaire, disons, ne peut pas être toléré, bien sûr, sans limite.
Jean Boulegue, je vous remercie. Je recommande la lecture de votre livre parce qu'on y apprend beaucoup de choses, notamment ces procès qu'on n'a pas suivis au jour le jour. C'est un travail d'historien, donc très, très documenté. Et j'en recommande donc la lecture. Je recommande aussi la lecture des derniers cahiers rationalistes 605 qui viennent de paraître, avec un important texte de Hélène Langevin, présidente de l'Union rationaliste, qui s'intitule « Des usages de la technoscience ». Et je rappelle le numéro 173 de Raison présente qui traite du service public avec des contributions importantes de Anicé Le Pors, de Jacques Fournier, de Guillaume Pépi notamment. Je vous remercie et vous donne rendez-vous au mois prochain.